CIBL 101.5 FM Montréal.
Intermittent jusqu'à Wellington, vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 21 mars et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette fin de semaine qui s'en vient. Et aujourd'hui, on reçoit Mélanie Charbonneau, propriétaire d'une cabane à sucre, suivie de François-Joseph Tastard qui vient nous parler de la semaine de la déficience intellectuelle. Et pour finir, ce sera la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, Montréal veut relancer ses festivités du Nouvel An qui n'ont pas eu lieu depuis 3 ans. La ville a invité les organismes culturels à soumettre des projets pour faire du centre-ville un lieu animé et attrayant pour la période des fêtes. C'est également un événement signature pour le 31 décembre qui est recherché, alors que l'organisme Montréal en Fête, qui gérait l'événement jusqu'à peu, avait mis la clé sous la porte en novembre dernier. Et ensuite, cette fin de semaine, c'est le retour des Jeux urbains de Montréal pour l'édition 2024. L'événement rassemble plusieurs athlètes locaux et internationaux autour de compétitions et de démonstrations sportives. Parmi les disciplines du BMX, du freestyle soccer, de la danse hip-hop et des sports de combat, ça se passe donc au Centre Eaton d'aujourd'hui à samedi et c'est gratuit. On continue de notre côté sur CIBL avec l'entrevue de Mélanie Charbonneau, copropriétaire de l'érablière Charbonneau. Et je reçois ce matin Mélanie Charbonneau, copropriétaire de, décidément, je vais y arriver, de l'érablière Charbonneau, une cabane à sucre située au Mont-Saint-Grégoire. Bonjour Mélanie.
Bonjour, bonjour.
Comment se passe l'arrivée du printemps à l'érablière?
En fait, elle se passe très bien. C'est plutôt qu'habituellement, ou en février, on a déjà fait plusieurs gallons de sirop d'érable. Les clients, les gens sont au rendez-vous, donc on est très contents là, de notre saison jusqu'à maintenant.
Mm-hmm. Ce printemps assez doux et assez tôt, en fait, est-ce qui vous a surpris? Quelles sont les conséquences pour l'érablière?
Bien, en fait, oui, au début, ça nous a surpris parce qu'on s'est dit, ah, peut-être que d'abord, ça va être très chaud rapidement. Donc, les conditions vont continuer à évoluer. Mais finalement, non, on a vraiment des gels la nuit, du redoux de jour, donc des températures idéales pour la fabrication de notre sirop d'érable. Mm-hmm.
Vous gérez donc l'érablière Charbonneau depuis 2004, une cabane à sucre située au Mont-Saint-Grégoire qui offre un service de restauration, des produits et des activités autour de l'érable, bien évidemment. Qu'est-ce que représente la saison du printemps pour vous?
Ça représente du bonheur, de la planification, de l'embauche de personnel, beaucoup de travail également, aussi une coordination avec toutes nos activités. Puis également, on doit tout planifier ça, mais on commence en septembre à planifier vraiment notre saison parce qu'on fait tout sur place. Donc, on fait nos marinades. Donc, à partir de septembre, octobre, on fait nos betteraves, notre ketchup, nos cornichons. Ensuite, un petit peu plus tard, au mois de novembre, on commence à préparer nos boulettes. On fait 50 000 petites tourtières parce que c'est sur notre menu, nos pêtes de sœur. Donc, on commence à préparer vraiment notre saison dès septembre là, chez nous.
Tout ça pour le printemps, en mars,
oui,
c'est ça?
Pour 3 mois. Donc, cette année, on a ouvert le 17 février.
Oui.
Et on est ouvert tous les jours jusqu'au 30 avril. Et oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Oui.
Quand une cabane à sucre fait tout sur place, puis c'est vraiment fait maison, on commence très tôt.
Vous avez grandi dans le monde de l'érable, puisque vos parents étaient également propriétaires d'une cabane à sucre. C'est donc une vocation familiale, une tradition?
Oui, en fait, du côté à mon père, c'est la famille Brodeur. Donc, ils ont eu toujours une cabane à sucre à Mont-Saint-Grégoire. Par la suite, mes parents ont décidé d'en louer une pour continuer leur activité, puisqu'il y avait un verger. Puis, ils se sont dit que ça se mariait bien, verger et érable. Donc, mars-avril, mes parents ont loué une cabane à sucre pendant 10 ans au pied du Mont-Saint-Grégoire. Donc, c'est là que j'ai fait mes premières amours avec cette saison qui est très occupée. J'ai commencé, j'avais 6 ans, là, je faisais juste quelques petites babioles là, dans la cabane à sucre, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré aussi être avec les employés, puis vivre des moments très, très, très achalandés, on est surexcités, l'adrénaline monte, d'avoir plein de gens tout en même temps, puis avoir aussi le sentiment qu'on a accompli une belle journée après.
Pourquoi vous lancer à votre tour dans une cabane à sucre une fois adulte? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette activité, ce métier?
Bien, en fait, moi, j'ai étudié en gestion et exploitation d'une entreprise agricole au cégep de Saint-Jean. Donc, c'est une technique agricole. Et par la suite, il y a eu quelques cabanes à sucre à vendre, tous en même temps au Mont-Saint-Grégoire, là, tout près de chez nous. Et je me cherchais un projet parce que je voulais m'établir. Puis mes parents n'étaient pas encore assez âgés pour prendre leur retraite. Donc, j'ai dit à mes parents que j'aimerais vraiment avoir une érablière. J'aimerais continuer ce qu'ils avaient fait dans les années 90. Donc, il y en avait une à vendre juste à côté du verger de mes parents. Donc, en ouvrant les barrières, les clôtures, on pouvait accéder à nos deux propriétés ensemble. Et dans ce temps-là, on avait un gros problème de stationnement au verger. Donc, les gens ne pouvaient pas. On avait vraiment beaucoup de gens dans le temps des pommes qui venaient cueillir des pommes, venaient à notre verger. Donc, c'était aussi une solution pour être réglementaire au niveau de la ville, puis pouvoir stationner des voitures durant le temps des pommes. Et là, c'est là qu'on a créé vraiment la synergie entre les deux entreprises.
Quel est votre quotidien en tant que... comment on appelle votre métier? Érablière?
Oui, c'est ça. C'est sûr que nous, on est dans le domaine acéricole, mais on est vraiment dans le côté touristique. Okay. Donc, on est vraiment copropriétaire d'une cabane à sucre. D'accord. C'est certain que, bon, les cabanes à sucre, je pense que tout le monde connaît ça au Québec, mais la pandémie a fait qu'on a eu une plus grande importance parce que, vous voyez, hier, on avait plusieurs personnes d'outre-mer. Les gens amènent des gens à la cabane à sucre pour refléter notre patrimoine québécois. Donc, on a été un peu plus reconnus, je pense, après la pandémie, là.
D'accord. Une cabane à sucre, c'est aussi un menu. Comment vous avez concocté le vôtre?
Bien, en fait, en 2004, quand on a ouvert notre érablière, en fait, on l'a toute réaménagée parce qu'elle était fermée depuis plusieurs années. Donc, on est reparti à zéro avec cette cabane à sucre-là. On a décidé, on voulait avoir quelque chose d'un petit peu plus nouveau là, au niveau du menu. On voulait pas seulement des œufs de jambon. On a vraiment repris notre recette de grand-mère de soupe au pois. On a ajouté du ragoût de boulette aussi parce qu'on s'est dit que ça faisait quand même chaleureux pour le temps des sucres. On a aussi toutes faites nos petites mini-tourtières que je te parlais tout à l'heure. Individuel à la main. On a ajouté aussi un sucre à la crème chaud à la fin du dessert. Donc, on a vraiment essayé d'ajouter quelques petits items différents que d'autres érablières n'avaient pas avant.
Et cette touche personnelle, en fait, c'est la pure tradition que vous essayez de remettre au goût du jour. C'est important, cette tradition-là, ces recettes de grand-mère?
Oui, 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 il faut qu'on garde nos recettes. Là. Quand les gens les aiment, c'est sûr qu'on les garde. On ne change pas nos recettes. Surtout que ce n'est pas un menu que l'on sert à l'année. Donc, les gens, d'une année à l'autre, ne sont pas tannés, en fait, de manger ça. Là. Ils sont dans leur souvenir. « Ah oui, l'année passée, c'est aussi bon que l'année passée. Ça, c'est meilleur que l'année passée. » Donc, tu sais, vraiment, oui, on veut garder une stabilité là, au niveau du menu.
Les repas que vous offrez sont très nombreux, avec les saucisses à l'érable, les fèves au lard, les oreilles de Chris, la tourtière maison. Dès le matin, ça donne envie. Quel est le plat, les plats qui ont le plus de succès?
Bien, je vous dirais que la soupe au pois, il y a beaucoup de gens qui en achètent même pour retourner à la maison. Ils nous disent que c'est la meilleure soupe au pois. En fait, notre tarte au sucre aussi, là, les gens l'adorent. Là, c'est vraiment une recette là, secrète que l'on a. Le coulis à l'érable, le sucre à la crème chaud, là, à la fin aussi, je pense qu'il n'y a pas d'autres vraiment érablières qui ont ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est fait avec de la crème, du sucre d'érable. Donc, c'est à la toute fin du dessert. Ensuite aussi, bien, je vous dirais que notre ragoût de boulette, vu que c'est différent puis il n'y a pas vraiment ça ailleurs, les gens aiment beaucoup également.
Et vous, à quel plat êtes-vous le plus attaché?
Moi, j'adore le coulis à l'érable. Là. Je les trempe dans les beignes. La plupart des gens les mettent sur la crêpe, mais moi, je les trempe dans les beignes chauds, là, donc j'adore.
Très bien, ça donne envie. Qu'est-ce qui distingue votre cuisine, vos produits, des autres cabanes à sucre qui sont très nombreuses au Québec? Qu'est-ce qui fait que la vôtre est particulière, si elle l'est?
Bien, en fait, oui, elle est particulière. Notre cabane à sucre est vraiment située dans notre érablière. Ça veut dire que les gens sont entourés d'érables dès leur arrivée. Le stationnement est même entre nos arbres. C'est pour ça qu'on n'a pas de tubulure. Là. C'est vraiment tout à la chaudière comme à l'ancienne. Nous avons 4000 en taille. Donc, comme vous devez voir, ça nous prend beaucoup de main-d'œuvre pour ramasser notre eau d'érable. On réussit. Puis aussi, ce qui est vraiment particulier chez nous, c'est que tout est fait maison et on a les employés chez nous qui travaillent depuis plusieurs années, dès notre tout début. Donc, on a des employés fidèles. On a une belle équipe chez nous.
Vous revendiquez en effet vraiment cette qualité exceptionnelle. Elle vous tient à cœur, même si ça vous demande des mois de travail que vous pourriez déléguer à d'autres entreprises?
Non, je persiste à vouloir tout faire chez nous. On a le contrôle. On a le contrôle de la qualité de nos épices, de notre poids aussi d'aliments. Je voudrais pas mettre ça entre les mains d'autres personnes que nous. Puis, je pourrais pas le faire non plus sans mes chefs cuisinières qui sont là à l'année pour nous. Là.
Vous avez également une boutique avec vos produits maison, justement, ceux à l'érable, bien sûr, avec le beurre d'érable, le caramel à l'érable, le coulis, les bonbons, la tarte à l'érable. C'est possible de faire une overdose d'érable?
Je pense pas. Il y a des gens qui... C'est sûr qu'après un repas de cabane à sucre, puis en plus, on a la tire sur la neige qui est inclue avec le repas à la fin. Des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils vont prendre une petite marche avant d'aller à la tire. Mais non, c'est certain que c'est un repas copieux. Il faut s'attendre à manger beaucoup. C'est un repas aussi qui vient des traditions du temps. Les gens se rassemblaient le dimanche en famille, puis avaient travaillé fort dans le bois. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est aussi copieux. Hein. Fait que c'est cette tradition du temps aussi que l'on veut transmettre aux gens qui viennent sur place là, nous visiter.
En passant, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment on fabrique l'érable, le sirop d'érable?
Bien oui, en fait, bon, on récolte la sève, bien sûr, et ensuite, on la fait évaporer dans notre évaporateur d'eau d'érable. Et de là, où est la façon de faire le sirop doré, ambré ou foncé? Ça va dépendre de la longueur de temps, la durée du temps que l'on va faire bouillir. Plus l'eau d'érable est sucrée, plus ça va faire un sirop clair. Plus l'eau d'érable est moins sucrée, comme l'année passée, on n'a pas pu faire de doré. L'eau n'était pas très sucrée. Là, on va avoir un sirop ambré. Par contre, un sirop ambré, ce n'est pas un sirop de mauvaise qualité. Tout au contraire, il est vraiment plus goûteux. Plus foncé, mais plus goûteux. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de mettre sur nos tables. Parce que c'est un sirop qu'on peut faire beaucoup plus en grande quantité. Et comme je disais, c'est vraiment plus goûteux. Puis les gens recherche ça, le goût du sirop d'érable. Le foncé, bien là, on va l'utiliser plus pour faire des produits dérivés, comme justement notre tarte au sucre, notre caramel, les bonbons, le sucre d'érable. Donc, le sirop foncé, on va l'utiliser pour faire de la production.
Et donc, vous dépendez vraiment des paramètres météo. Comme vous l'avez dit cette année, vous n'avez pas pu faire un type de sirop. Vous dépendez de ces enjeux-là?
Oui, oui, exactement. C'est vraiment Mère Nature, notre patronne, au niveau de la production de sirop d'érable, mais au niveau de la clientèle aussi, parce que si la température n'est pas clémente, les gens n'ont pas vraiment le goût d'aller à cabane à sucre. Donc, oui, mais pour ce qui est de la production de sirop d'érable, comme tout autre type d'agriculture, on est vraiment à la merci de la température. Il faut faire avec. Cette année, on pensait vraiment avoir une saison très courte, mais là, finalement, c'est une très, très, très bonne saison pour les acériculteurs du Québec cette année.
Très bien. Et bien, tant mieux pour tout le monde. Votre cabane à sucre, c'est pas seulement de la restauration et des produits, c'est aussi un ensemble d'activités à faire autour du domaine. Quels sont les atouts de votre localisation au Mont-Saint-Grégoire?
Bien, en fait, on est situé au pied du Mont-Saint-Grégoire et on a plusieurs sentiers en montagne. Donc, les gens ont accès à ces sentiers-là. Même un belvédère, là, à la moitié environ de la montagne pour voir un peu les alentours. On a aussi des sentiers entre notre verger et notre érablière, puisqu'on est côte à côte. des petites balades en tracteur aussi. On a une belle mini-ferme avec plusieurs types d'animaux, là, cochons, dindes sauvages. On a des alpagas, des chèvres. Donc, les gens peuvent venir nourrir les animaux. On a aussi des modules de jeux extérieurs, un aire de feu, une boutique, la tire sur la neige, des explications pour ceux qui le veulent pour ce qui est de la fabrication du sirop d'érable à l'intérieur de la salle d'évaporation. On a également, bon, le repas, bien sûr, et on est partenaire aussi d'affaires avec Arbraska et Hopla. Donc, si les gens veulent réserver le week-end ou les soirs, les vendredis soirs, ils peuvent aller sauter dans les trampolines. C'est sûr que ce n'est pas inclus avec le repas, mais c'est quand même une belle activité qui va se jumeler très bien avec un repas des sucres.
C'est une bonne idée de faire du trampoline après avoir mangé à l'érablière?
Je dirais plus avant. Il faut la faire avant. Après, on a faim, on a gaspillé l'énergie, donc on a de l'espace pour manger puis okay. avoir une belle toquette de tir à la fin.
Ouais, c'est mieux dans le bon ordre. Plus qu'un repas, au final, c'est vraiment une expérience totale, cette érablière.
Oui, vraiment, les gens peuvent passer plus que le temps du repas. Là. Ils peuvent vraiment se rassembler à l'extérieur, autour du feu, marcher, explorer aussi nos sentiers. Donc, oui, les gens, ils restent plus que le repas. Là. Ils vont rester quelques heures, des fois même toute une journée complète.
Qui est votre clientèle? Vous avez des familles, j'imagine. Est-ce que vous arrivez à voir un peu les profils de personnes qui viennent?
Bien, je vous dirais que ça dépend de la journée, de la semaine. On a beaucoup, sur semaine, on a des compagnies, on a des retraités, on a des associations. Le week-end, c'est beaucoup, beaucoup des familles. On a aussi des fois, les soirs de semaine, des gens d'affaires qui viennent montrer justement notre patrimoine à des gens qui viennent de l'extérieur ou d'autres gens d'affaires. Donc, on a vraiment une panoplie de gens, là, de clientèle. C'est vraiment différent. Donc, c'est de zéro à 100 ans, là, les gens peuvent venir à l'érablière.
Super. Merci beaucoup, Mélanie, venue nous parler de la cabane à sucre. La saison des sucres, c'est tous les jours jusqu'au 30 avril à l'érablière Charbonneau, c'est ça, du lundi au dimanche?
Oui, exactement. On est ouvert pour tous les midis, tous les soirs. On fait également des boîtes repas. Là, c'est né depuis 2021, ce concept. Donc, les gens qui ne veulent pas venir à la cabane à sucre ou qui ne peuvent pas venir à la cabane à sucre, on fait vraiment des boîtes repas également qui sont prêtes à réchauffer à la maison. Les gens peuvent les acheter directement à l'érablière ou on est partenaire avec quelques métros. Donc, les gens peuvent les commander et aller les chercher dans quelques métros sur la rive sud.
Très bien. Eh bien, on vous souhaite un joyeux printemps, une joyeuse saison des sucres et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
On continue sur CIBL et avant ça, on écoute Attache ta tuque de Swinging Relatives.
Mesdames et messieurs, Swinging Relatives va vous faire une proposition de reggae et rigadon et de chanter cette affaire à la sueur de nos temps. Vas-y. Attache ta tuque, on s'en va cabane à sucre. Attache ta tuque, on s'en va cabane à sucre. Brent!
So let me see if I understand. You want me to put on my cap and go to Sugar Shack?
C'est ça. Ah ouais! Swing la vaquaise dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond. Swing la catin dans le fond, la boîte à pain. Swing la gréman, il t'a qui est en contact. Swing la brunette, la roussette, la blondinette. Attache-tu qu'on s'en va cabane à sucre. Ah ouais! Thank you. ton tuxedo, mettre une autre qui fait ton bonheur. Ton pachou, ton kimono, nous on t'en regarde pas la couleur. Italien,
à cabana souk.
Anglais,
à cabana souk.
Chilien,
à cabana souk.
Montagnais,
à cabana souk.
Chinois, à cabana souk. Japonais, à cabana souk. C'est souk jamaïque. Swing la baquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond, la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond. Swing la cabane dans le fond, la boîte à vin. Swing la grima, puis swing la fricama. Ou prends ton temps, vas-y lentement, assurément. Mais vas-y donc, sur la mer de Rigaudon. On se retrouve une fois par année, c'est pas pour la nouvelle année. C'est plus souvent l'après-midi, rapport qu'au soir, il fait pas chaud. Même si on danse toute la journée, personne n'est vraiment fatigué. C'est parce que l'hiver est fini, que les jupettes sont arrivées. On s'invente un colleux, un galonneux. On a tout le monde dans un paquet, tout bien tassé sur le parquet. On se souvient plus tellement comment giguer. Mais c'est pas grave, écoutez-moi, non, tu lutter.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10h sur CIBL-FM.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
CIBL 105, Montréal.
Et je reçois à présent François-Joseph Tastard, porte-parole de la Semaine de la déficience intellectuelle. Bonjour François-Joseph.
Bonjour.
Du 17 au 23 mars, c'est donc la Semaine de la déficience intellectuelle, durant laquelle les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle sont célébrées et mises en valeur aux yeux du grand public. Pourquoi un événement comme celui-là est important pour toi?
Pour moi, c'est pour rappeler qu'on est là, qu'on existe, puis que... On a le droit d'avoir notre place dans la société, on a le droit de faire des activités comme tout le monde.
La Société québécoise de la déficience intellectuelle qui organise la semaine a fait appel à 12 porte-paroles qui ont un vécu en santé mentale pour représenter ces communautés. Pourquoi toi, tu t'es porté volontaire?
En fait, moi, j'ai fait l'année passée, j'ai été porte-parole l'année passée, ils m'ont rappelé parce qu'ils ont vu que mon projet avait de la valeur aux yeux de la société. Mm-hmm. Fait qu'ils m'ont dit que si ça m'intéressait... Que si ça m'intéressait, que ça valait la peine.
Oui, et t'aimes ça, porter la parole de ta communauté. Oui. Ouais. Et ça se passe bien jusqu'à maintenant?
Oui.
La thématique de cette édition, c'est « J'ai ma place ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Moi, ça représente que, surtout dans le milieu du travail, qu'on ait notre place, qu'on ait des emplois adaptés à nos conditions.
Mm-hmm. Pourquoi tu parles du milieu du travail?
En fait, je parle du milieu de travail surtout parce que moi, ça me tient à cœur. Mm-hmm. Parce que moi puis certains de mes collègues de classe, on a démarré une petite entreprise. Mm-hmm. On a démarré pour le but d'avoir des emplois adaptés à nos conditions. Mm-hmm. Parce que la majorité du temps, les emplois adaptés n'étaient pas vraiment adapté à nos conditions. Mmh.
C'est ça, on va revenir sur cette entreprise que tu as créée. Mais avant ça, donc, tu nous racontes ta difficulté de t'être intégré sur le monde du travail.
Ouais.
Pourquoi c'est un problème d'être exclu du monde du travail?
En fait, c'est souvent un problème parce que en général, quand nous, les personnes avec une déficience, on n'a pas de travail, ben la journée, on fait pas grand-chose. Mmh. On n'a pas d'activité. Puis si on en a, ben après ça, on fait plus rien. On n'a rien d'intéressant à faire.
Donc le travail, c'est important.
Oui.
Quelles difficultés tu as rencontrées plus précisément sur le marché du travail? Qu'est-ce que t'ont dit les entreprises auxquelles tu as appliqué?
Le travail, qu'est-ce qui est difficile surtout pour moi puis mes collègues, c'est le stress. Mmh. Les entreprises sont adaptés souvent pour les personnes avec des handicaps physiques, mais des handicaps comme nous, intellectuels, c'est rare, les entreprises qui acceptent à prendre le temps de nous montrer comment faire les choses comme il faut, sans qu'on soit stressé.
Donc, elles ne prennent pas le temps, au final. Elles n'ont pas le temps pour vous expliquer
ça. Exact, oui.
Et donc, en réponse à cela, tu le disais, tu as lancé en 2019 une entreprise, tout simplement, Saveur du Bonheur, ça s'appelle, avec d'autres personnes qui vivent une déficience intellectuelle. Pourquoi t'être lancé dans ce projet?
En fait, pour le fait, parce que je me suis rendu compte que ça fait 10 ans qu'on travaille sur le projet, mais en fait, au début, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les emplois qu'on nous offrait qui étaient adaptés pour nous. Après un an, ils nous slaquaient.
Ah bon? Oui.
Il n'y avait plus de subvention du gouvernement, fait qu'ils nous mettaient à la porte, puis il fallait trouver un autre emploi. Il n'y avait pas d'emploi stable à long terme.
Donc toi, tout simplement, tu t'es dit, je vais créer mon entreprise.
Oui, exact.
T'es content de ce projet? T'as pas de regrets, j'imagine?
Non.
et qui sont les personnes qui travaillent avec toi? C'est des personnes de ton école, c'est ça?
Oui, c'était un projet qui est parti, premièrement... dans notre école, c'était une idée qui est partie avec notre professeur et notre directrice à l'époque. Mais là, on est en démarrage avec le gouvernement pour être 100% autonome à la fin de l'année scolaire.
Mm-hmm. Qu'est-ce que ça montre, selon toi, le fait que tu crées ta propre entreprise? Qu'est-ce que ça montre aux autres personnes qui peuvent vivre
cette situation? Ça montre que les personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on a les deux dans notre entreprise, ça montre que... on est capable de travailler et qu'on veut travailler.
Mm-hmm. Quel est le concept du projet Saveur du Bonheur?
Saveur du Bonheur, c'est une entreprise de produits alimentaires vegan, sauf qu'un produit qu'on a, qu'on ne peut pas transformer vegan, c'est notre sucre à la crème.
Vous avez essayé, mais...
on a essayé, mais ce n'est pas possible.
OK, très bien. Donc, c'est des produits alimentaires déshydratés, c'est ça, et vegan?
Oui.
Pourquoi vegan? Pourquoi ce choix-là?
Vegan, parce que c'est le plus simple à préparer.
Ah, d'accord, OK.
Parce qu'on n'a pas besoin d'installation précise, on a juste besoin des tables en stainless, c'est tout. On n'a pas besoin de four, de rien.
Ah, ouais. OK. Ouais. Et c'est, pour nous donner une idée, c'est quel genre de plat que vous préparez?
Surtout des soupes, on a des macaronis spéciales pour ceux qui font surtout du camping, des sortes de macaronis en pot, mais c'est surtout des produits en pot maçon, des soupes, des breuvages.
Ouais. Et c'est bon?
Oui.
Tu valides. Où est-ce que vous vendez vos produits?
Le problème, c'est que présentement, vu qu'il y a eu la grève dans les écoles, notre école nous a mis à la porte. Fait qu'on est en recherche de local.
D'accord.
Fait que là, présentement, on écoule ce qui nous reste.
D'accord. Donc, on fait un appel à tous ceux qui nous écoutent, si jamais ils ont un petit local à vous prêter,
c'est ça? Oui.
OK. Quel est le fonctionnement de votre entreprise? Qui s'occupe de quoi?
En fait, on fonctionne sous la forme de coopérative. Mm-hmm. C'est de la forme qu'on, au final, on veut créer. Parce qu'on veut que chaque personne ait un emploi à la hauteur de ses capacités puis à la hauteur de ce qu'il aime. Mm-hmm. On a des personnes dans chaque division qui dirigent d'autres personnels, mais tout le monde est sur le même pied d'égalité.
D'accord. Toi, par exemple, tu t'occupes de quoi?
Moi, en fait, je suis directeur des communications, mais je fais plus que ça. Je m'occupe aussi du relation avec les employés RH. Je fais aussi les livraisons, mm-hmm. vu que moi, je suis le seul parmi ma gang à avoir mon permis.
OK. Et tu t'occupes pas de la cuisine?
Non.
Ça, c'est tes copains qui
font la cuisine? Oui, c'est mes collègues qui sont plus habitués à ça.
Oui. Ils avaient une formation à ça ou ils se sont formés sur le tas?
ils ont eu pendant des années appris avec mon prof d'école qui leur donnait des formations en cuisine. Mais ils étaient spécialisés dans certaines recettes, fait qu'on leur a laissé la place.
Question très importante, est-ce que vous rencontrez du succès? Est-ce que les gens aiment ce que vous
faites? Oui. Quatre fois par année, on vend à l'hôpital Notre-Dame.
Oui. Donc c'est ça, vous vendez à des particuliers, mais à l'hôpital Notre-Dame, que vous fournissez régulièrement au repas. C'est important qu'un grand établissement comme l'hôpital vous fasse appel à vos services?
Oui, quand même, oui. J'ai ma collègue ma collègue de travail qui est dans notre entreprise. Elle a un stage à l'hôpital, mm-hmm. puis ils nous ont laissé la place d'une table une fois par quatre mois. Okay. Pour vendre nos produits. Les infirmières aiment bien nos produits.
Et comment ça s'est fait, cette collaboration? Est-ce que c'est vous qui les avez démarchés? C'est l'hôpital qui a fait appel à vous?
C'est ma collègue qui a démarché auprès de son responsable de stage.
OK. Quels sont les objectifs pour la suite? Trouver un local, j'imagine?
Oui. Trouver un local, trouver du financement, puis agrandir notre cercle de partenaires.
Oui. Dans un de vos derniers posts Facebook, vous dites que Saveur du Bonheur, c'est bien plus qu'une entreprise, c'est une bouffée d'optimisme qui vous permet de croire en vous-même, de croire en vos rêves et en vos intérêts.
Oui.
C'est un bel objectif. Comment cette entreprise vous apporte tout ça?
Ça nous apporte parce que vu qu'on a de la reconnaissance des gens, on est fiers de savoir que nos produits servent à nourrir des personnes défavorisées.
Mm-hmm. Comment on peut vous soutenir dans cette belle mission?
Nous soutenir soit sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Mm-hmm. On a aussi notre... j'ai oublié le nom. Notre GoFundMe.
Oui.
Qu'on peut, si vous pouvez...
En tapant Saveur du Bonheur, j'imagine, sur GoFundMe. Bien. Ça vous aidera à trouver un local et faire encore plus de repas. C'est la semaine de la déficience intellectuelle. On disait, quel message, pour finir, tu veux faire passer suite à ce récit que tu nous as apporté avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu aimerais dire au grand public qui nous écoute et qui n'avait jamais entendu parler de la semaine de la déficience intellectuelle?
Si vous voulez, je sais qu'à chaque année... Pour la semaine de la déficience intellectuelle, il y a le musée, l'éco-musée du Fiermonde qui présente des œuvres que des élèves de mon école ou mm-hmm. d'autres organismes que je fréquente font. Puis ça permet d'avoir le reflet de ce qui est la déficience ou le TSA.
Mais voilà. Mm-hmm. Donc ça se passe à l'éco-musée du Fiermonde?
Oui, ça finit le 24.
Très bien. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, François-Joseph. Ton entreprise s'appelle Saveur du Bonheur, tout simplement. On peut te soutenir sur GoFundMe, sur Facebook. Merci beaucoup et puis bonne continuation avec ton entreprise.
Merci.
On continue sur CIBL avec la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal.
Je me souviens d'avant, je me souviens de toi. Quand j'étais un enfant, quand j'étais dans tes bras. Sans lendemain. Sans long refrain, je me souviens de toi. Je me souviens d'avant, je nous revois là-bas. Je me souviens de temps où les loups n'existent pas. Sans la jungle qui pousse autour de toi, je nous revois. chanson d'Alain Souchon.
Écoutiez Full Sentimental de Gustafsson et on enchaîne avec Rien Savoir de Thibaut de Corta avant de retrouver notre chroniqueuse.
On me demande pour travailler, je veux rien savoir. On me demande pour payer, je veux rien savoir. On me demande d'aller voter, je veux rien savoir. Quand tu me demandes de t'aider, ben là, c'est une autre histoire. Tu me demandes d'acheter un char, je veux rien savoir. Tu me demandes plus boire de fort, je veux rien savoir. Tu me demandes pas rentrer tard, je veux rien savoir. Quand tu me demandes de t'aimer, ben là c'est une autre histoire. Que je pense, je veux rien savoir. Tu me demandes combien je dépense, je veux rien savoir. Tu me demandes de faire du sens, je veux rien savoir. Mais quand tu me demandes de t'aider, ben là, c'est une autre histoire. Mais quand tu me demandes de t'aimer, ben là, c'est une autre histoire.
Je reçois à présent Sophie Morel, directrice générale de Nos Ressources Montréal, pour une petite chronique sur les enjeux d'accès des femmes à la santé. Bonjour Sophie.
Bonjour Charline.
Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter l'organisme pour lequel vous travaillez, Nos Ressources?
Avec plaisir. Donc, Nos Ressources Montréal, c'est un organisme qui contribue à développer des environnements et des communautés favorables à l'allaitement. Mmh. L'objectif étant d'accompagner les familles pour que ce qu'ils vivent l'allaitement à cette période-là, ils se sentent soutenus et protégés.
Mmh. Alors, quelle est l'origine de cet organisme? J'imagine qu'il y en a une.
Oui, donc l'organisme a été fondé en 1982 par une femme, une infirmière, qui a eu son premier enfant, était convaincue qu'elle voulait allaiter et s'est rendue compte que c'était vraiment pas si simple à une époque où le biberon, la préparation était, prenait toute la place sur le marché et dans la culture. Donc, elle s'est rassemblée avec d'autres femmes de sa communauté pour s'entraider et ça l'a fait des petits et a grossi avec le temps à plusieurs endroits au Québec maintenant.
Vous l'avez dit, ça fait pas mal de temps que l'organisme existe. En quoi votre mission est encore pertinente plus de 40 ans après la fondation de Nos Ressources?
Il y a eu beaucoup de progrès depuis les années 80, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de lobby, du marketing, des préparations, mais aussi tout un réapprentissage de comment on fait pour allaiter quand il y a eu plusieurs générations qui ont peu ou pas allaité du tout. Donc, les familles ont encore besoin d'être soutenues, ils ont besoin de modèles, d'un village pour les aider à élever leurs enfants puis à allaiter. Ça en fait partie.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une sorte de côté dans votre organisme où vous mettez la pression sur les femmes pour qu'elles allaitent? On peut penser que c'est leur corps, leur décision. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui formulent cette critique?
Oui, c'est souvent les critiques qu'il y a envers les organismes comme le nôtre. Ce qu'on aime répondre à ça, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire la promotion de l'allaitement. On est plutôt là pour faire la promotion du soutien. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui choisissent l'allaitement ou qui décident d'allaiter, nous, on est là pour les accompagner là-dedans. On veut leur permettre d'atteindre leur objectif, mais on n'est pas là pour leur dire quoi faire.
Et justement, à quoi ça ressemble des services de soutien en allaitement?
Ça peut prendre différentes formes. Notre principal service qui est là depuis la fondation, ça consiste en un jumelage avec une bénévole qu'on appelle marraine d'allaitement, qui est en fait une mère qui a allaité elle-même puis qui soutient une famille de sa communauté. Ça, c'est un des principaux services. Donc, un accompagnement personnalisé quasi au quotidien là, dans les premiers jours. On a aussi des rencontres de groupe qu'on appelle des haltes allaitement, où là, les parents peuvent se rencontrer des bénévoles. Il y a aussi des professionnels de la santé qui sont là quand c'est des situations un petit peu plus complexes. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de sortir de la maison, rencontrer d'autres parents, partager leur expérience, parler d'allaitement, mais de toute autre chose qu'on peut vivre là, pendant la parentalité.
C'est ça, parce que l'allaitement est lié à des problématiques et on ne pense pas forcément au fait que les parents aient besoin de soutien par rapport à l'allaitement, mais c'est quelque chose qui est nécessaire.
Tout à fait. Donc, les parents ont souvent l'idée, puis j'étais la première à avoir cette idée, allaiter, c'est naturel, ça va être facile. On prend toute une débarque. Mmh. On se rend compte qu'une fois qu'on a le bébé dans les bras, qui est sorti, il veut téter tout de suite et on a aucune idée comment faire, parce qu'on n'a souvent jamais vu un bébé de ce format-là. Et on est maintenant responsable d'en prendre soin 100% du temps. Il dépend complètement de nous. C'est très déstabilisant. Donc, tout est à apprendre. C'est comme un ouragan, un Big Bang, avoir un enfant dans sa vie qui atterrit. Et là, il faut apprendre à le nourrir. Lui, il doit apprendre à se nourrir. Et on a besoin d'aide. On a besoin de gens pour prendre soin de nous. On a besoin de gens qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous nourrissent. Mm-hmm. Donc, oui, ça prend un accompagnement. C'est pas quelque chose qui s'apprend tout seul ou difficilement tout seul.
Et c'est pour ça que Nos Ressources existent. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un manque de sensibilisation et d'éducation dans les hôpitaux, par exemple, à l'allaitement? Est-ce que ce serait pas un service de soutien qui pourrait être offert au niveau public général?
Il y a deux choses. Il y a la place en général de la périnatalité, cette période très critique là, pour la naissance des enfants, leurs premières années de vie, mais aussi pour les parents, pour apprendre à devenir des parents. Mm-hmm. De façon générale, il y a peu de soutien qui est offert aux parents, autant dans le public que dans la société en général. Là, c'est pas une, on n'accorde pas une si grande importance que ça. Et dans le réseau public, il y a des services. C'est leur responsabilité d'offrir des services. Malheureusement, comme plusieurs soins, c'est insuffisant. Mm-hmm. Les ressources sont insuffisantes. Les gens sont pleins de bonne volonté, mais les ressources manquent pour offrir des services à la hauteur mm-hmm. des besoins. Puis quand on parle d'allaitement aussi, on va avec la grossesse, la naissance, c'est très médicalisé. Donc, c'est des connaissances très médicales sur un enjeu, en fait, qui n'est pas un problème de santé. Mm-hmm. C'est juste une façon de nourrir son enfant. Mm-hmm. Mais les connaissances ne suivent pas toujours.
Vous avez notamment une initiative qui s'appelle La Route du lait. En quoi elle consiste? À quoi elle sert?
La Route du lait est née en 2010 à peu mm-hmm. près, mais ce n'est pas une nouvelle idée. C'est des choses qui existent ailleurs dans le monde. L'idée, c'est d'identifier clairement pour les familles des endroits où, qu'on dit des lieux favorables à l'allaitement. Donc, les parents peuvent entrer, demander à s'asseoir, allaiter leur bébé et repartir. Mm-hmm. Donc, ils sont répertoriés sur une carte interactive. Ça peut être des commerces, ça peut être des organismes communautaires, des établissements de santé ou mm-hmm. municipaux.
Très bien. Vous avez aussi 300 bénévoles qui s'impliquent dans l'organisme. Quel est le rôle de ces femmes? Qui sont-elles? Et qu'est-ce qu'elles apportent aux femmes, aux parents qui ont décidé d'allaiter?
Sur nos 300 bénévoles, on a environ 60 % qui sont en fait des mères qui ont mmh. utilisé nos services. Mmh. Donc, elles connaissent la valeur, elles savent à quel point c'est important d'avoir du soutien et elles veulent souvent redonner. L'autre portion est arrivée par le bouche à oreille ou ouais. autre, où ont eu besoin d'aide et n'ont pas trouvé les ressources et là veulent s'assurer que d'autres femmes ne vivent pas la même détresse qu'elles ont vécue. Mm. Donc, c'est des mères actives sur le marché de l'emploi ou maman à la maison qui ont leurs enfants et qui trouvent le moyen de donner du temps quand même. Mm-hmm.
Vous parlez de ces femmes qui ont utilisé vos services et justement, on sait que la période qui couvre la grossesse et puis les deux années suivantes sont très importantes pour le développement des tout-petits. Du côté des femmes, comment on vit cette période-là?
Comme je l'ai nommé un peu tantôt, pour la famille en général, c'est comme un cataclysme. Mmh. Tout est à réinventer, la vie à deux. Puis même quand on accueille un deuxième, troisième enfant, il mmh. faut retrouver l'équilibre et ça prend plusieurs moments. Particulièrement pour les femmes, par contre, elles ont porté un enfant, donc elles ont mis au monde. Elles doivent se rétablir, doivent guérir. Elles vivent avec toutes les hormones qui s'en vont dans tous les sens. Et après, elles doivent apprendre à nourrir un bébé, à en prendre soin, à l'avoir quasi 24 heures sur 24 collé contre eux ou s'assurer qu'il est en sécurité quelque part. Donc, c'est comme un souci constant. C'est de l'hypervigilance. Ça sert à la survie de l'espèce, mais c'est aussi très drainant en énergie. Mm-hmm. Donc, d'où l'idée, l'importance d'avoir un réseau de soutien, des gens qui nous accompagnent, qui nous aident à penser à nos besoins de base pour pouvoir prendre soin des enfants, mm-hmm. S'organiser, le partage des tâches dans la famille aussi pour trouver un certain équilibre avec le temps.
À première vue, on a l'impression que c'est un sujet qui est intime, mais en fait, il concerne beaucoup plus que l'intime. C'est un enjeu de société. Pourquoi vous utilisez ce terme et qu'est-ce que ça veut dire?
On a souvent tendance à restreindre l'allaitement à un enjeu de santé publique. Évidemment, ça concerne la santé de l'enfant, sa santé future, la santé de la mère. On parle aussi de santé mentale des parents qui peuvent vivre de la détresse quand ils ne sont pas accompagnés, quand ils n'ont pas les services de soutien. Mm-hmm. Mais l'allaitement, de façon plus large aussi, on peut parler d'enjeux sur l'environnement, mm-hmm. le fait que ça soit un aliment qui soit plus de type développement durable mm-hmm. avec un aliment qui est sain, qui est local. Donc, il y a des enjeux à ne pas allaiter mm-hmm. Au niveau de l'environnement, bien qu'on reconnaisse là, qu'il y a plein d'options, mm-hmm. plus là, de raisons pour ne pas allaiter. On peut parler aussi de, justement, la place des femmes sur le marché du travail, un isolement qui peut venir avec mm-hmm. ça. Il y a beaucoup de droits aussi qui peuvent être bafoués ou protégés par rapport à l'allaitement, notamment le droit d'allaiter dans l'espace public qui n'est pas toujours respecté.
Mm-hmm. À Montréal, il y a plus de 93 % des femmes qui allaitent leur bébé à la naissance et vous parlez du fait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se cache derrière cet allaitement. Donc, même si beaucoup de femmes allaitent, il y a encore beaucoup de travail à réaliser. C'est quoi ces enjeux-là?
Oui. Donc, 93 % des femmes, bravo, on peut se féliciter. Elles sont bien convaincues que c'est important. Mm-hmm. Par contre, après ça, le manque de soutien, les informations incohérentes, le manque d'accompagnement fait en sorte que rapidement, elles vont arrêter d'allaiter, allaiter moins exclusivement. D'accord. Bref, pas se rendre où est-ce qu'elles auraient envie de se rendre. Et c'est ça qui crée la pression, la détresse, l'impression de ne pas être une bonne mère, parce qu'on sait que c'est important, c'est ça qu'on voulait faire, mais on a l'impression qu'on n'y arrive pas.
Et qu'est-ce qui se passe alors quand une femme n'atteint pas ses objectifs, si on peut les nommer comme ça, ses objectifs d'allaitement?
Elle peut ressentir, puis là, ça peut être la mère et aussi son conjoint ou sa partenaire de vie. On a des objectifs, on se dit que c'est ça qui a le mieux, on n'y arrive pas. Donc, on peut imaginer le sentiment d'échec, la culpabilité, la détresse. Il y en a qui vont même vivre des dépressions postpartum et traîner pendant des années. Cet inconfort, le fait d'avoir pas réussi.
Quand on parle de santé des femmes, il est souvent question d'inégalité, de sexisme médical. On a commencé un peu à avoir la réponse, mais est-ce que c'est le cas pour ce qui touche à l'allaitement? Comment ça se traduit?
Effectivement, c'est le cas de l'allaitement, comme on a parlé un peu de la grossesse, la naissance. Il y a très peu de données très concrètes sur l'allaitement ou vraiment pas assez pour comprendre c'est quoi la normalité ou ce qu'on peut s'attendre de l'allaitement, sachant que ça varie beaucoup d'une femme à l'autre, mais aussi en cas de problématique, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi les bonnes interventions? Qu'est-ce qui va favoriser l'allaitement et faciliter le tout? Mais les professionnels de santé, en général, n'ont pas les connaissances parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école, parce que des fois, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas ou ils ne peuvent pas tout connaître non plus. C'est une spécialité en soi, connaître les enjeux d'allaitement.
Est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus touchées par ces enjeux d'inégalité que d'autres?
Évidemment, comme pour beaucoup d'enjeux en santé, des femmes qui vont vivre dans des situations plus de vulnérabilité, de précarité, qui doivent penser à d'abord se nourrir, se loger, ont peut-être pas le temps d'aller se renseigner sur comment traiter un problème d'allaitement. Ou parfois vont avoir besoin, il y a des femmes qui vont avoir besoin de services spécialisés, un tire-lait pour augmenter la production ou une professionnelle spécialisée en allaitement. Et ça, c'est souvent payant. Donc, des femmes qui n'ont pas accès à ces services-là en raison du coût peuvent avoir plus de difficultés à poursuivre l'allaitement.
Donc, on en revient aux droits des femmes. L'allaitement, c'est primordial pour ces droits-là?
Oui, en lien avec le droit de choisir la façon dont on nourrit notre bébé. Mais aussi, on peut aller plus loin, le droit des femmes à la santé, sachant que certaines femmes vont allaiter aussi pour leur propre santé. Ça peut protéger de cancer féminin, de maladies chroniques à plus long terme. Donc, il y a un coût, mais il y a un impact si on n'arrive pas à allaiter comme on le souhaitait.
Pour finir, puisqu'on couvre principalement l'actualité de Montréal, est-ce qu'il y a des différences qu'on peut observer entre Montréal et le reste du Québec sur la situation liée à l'allaitement?
Il y a toujours beaucoup de différences avec Montréal, notamment par la démographie. Donc, on voit toutes sortes de courants. On va voir des familles, beaucoup de familles immigrantes qui vont arriver avec leur bagage, avec leur culture d'allaitement, qui vont allaiter davantage que d'autres femmes. Ces personnes-là, on ne les voit pas forcément dans notre organisme. Elles s'organisent entre eux. Puis ça fait rêver du jour. On n'aurait plus besoin d'exister parce que les communautés se seraient rétablies, pourraient s'entraider entre elles. On a aussi des différences en termes de répartition des services. Les besoins sont tellement immenses à Montréal versus d'autres régions. On n'a pas assez de ressources, notamment dans le réseau de la santé, pour desservir tout le monde. C'est environ 20 000 naissances juste à Montréal par année. On est un principal organisme à desservir les familles, alors que d'autres régions, par exemple Québec, environ 7 000 naissances, il y a 5 organismes qui les desservent. Donc, le calcul se fait rapidement. On n'est pas assez. Il n'y a pas assez de ressources pour Montréal et les familles peuvent en pâtir.
Ben, le message est entendu. J'invite tous les auditeurs, auditrices à aller consulter votre site Internet. C'est Nourrissources Montréal. Vous avez l'adresse en tête?
Je peux vous l'épeler. NOURRISOURCE Montréal.
Très bien.
Et ben, .org.
Très bien. On retrouve toutes les infos. On peut s'engager bénévolement. On
tout
peut
à fait.
Peut-être ou faire des dons. Ça
tout
peut servir.
Ça peut toujours servir.
Merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous parler de ce sujet. Et puis, bonne continuation avec votre organisme.
Avec grand plaisir. Merci, Charline.
On continue sur CIBL. Thank you.
un grand trou, et puis son cœur qui fait trois tours. Dedans, l'arrière-goût, corps de 16 heures, la nuit, le jour. Elle est de passage au nord, est une femme, un décor. Elle a un travail sous terre. C'est une femme ordinaire. C'est une femme infirmière. Trouvée de corps usé, qu'elle rafistole du mieux qu'un peu. Leur rêve, leur pensée qui s'étiole du fond des yeux. Elle est de passage au nord. C'est une femme météore. Elle se laisse pas démonter. Elle a un moral d'acier. C'est trop, son corps vieillit sans exception. Tant pis, à bientôt, bye Rimouski, je t'aime garçon. Elle est de passage au nord, c'est une femme, une aurore. Fais attention à elle. Son sac, 16 heures toujours. Elle est déprise du nord. C'est une femme, un trésor. Comme il en existe encore. C'est une femme au cœur d'or. Elle est déprise du nord. C'est une femme au cœur d'or.
Vous écoutiez Katinick de Maxime Auguste, et pour nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Michael Axelin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine, et puis lundi on reçoit une réalisatrice et un humoriste. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme, et n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission en direct.
Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet « Bingo radio de CIBL ». À dimanche prochain et bonne chance!
La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
On vient juste reprendre ce qui est à nous.
Comment? On a le flow, on a le flair. Tout Gucci, comme le flair. Ice, ice, on en fait. Laisse-nous faire.
Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marily et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h à CIBL.
CIBL, au cœur de la musique.